Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Huit février 2022, il y a 60 ans, une manifestation pour la paix en Algérie se soldait par 9 morts au métro Charonne à Paris. Une répression sanglante menée par une police sous l'autorité du préfet Maurice Papon. Le Forum des mondes méditerranéens à Marseille, forum initié par Emmanuel Macron, le chef de l'État français, a défendu la richesse plurielle des Français venant des diasporas du Levant, du Maghreb, d'Europe du Sud. Réaction de l'Union européenne après la décision du président tunisien Kais Saied de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. L'Union se dit préoccupée. Les États-Unis également font part de leurs préoccupations. Le logement n'a jamais été une priorité de l'exécutif, un regret formulé par la Fondation Abbé Pierre dans son 27e rapport annuel. Le directeur des études de la Fondation, Manuel Domergue, sera l'un de nos invités. Les polémiques à répétition sur l'islam sont stériles et ne résolvent en rien les difficultés de la société française. C'est ce qu'affirme dans une tribune au Monde un collectif de chercheurs, dont l'historien et spécialiste de l'islam, Olivier Hahn, que nous écouterons. C'était il y a 60 ans, une manifestation réclamant la paix en Algérie était violemment réprimée à la station de métro Charonne à Paris. Une manifestation pacifique le 8 février 1962 qui avait pour ordre contre les crimes et attentats de l'organisation armée secrète et pour le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Un rassemblement réprimé par la brigade spéciale de police placée sous l'autorité directe du préfet Maurice Papon. Il sera dénombré 9 morts et des centaines de blessés. Le comité Vérité et Justice pour Charonne appelle à un rassemblement ce soir au métro Charonne. Le logement n'a jamais été une priorité de l'exécutif. Un regret formulé par la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport annuel. L'association indique que 4 100 000 personnes sont mal logées en France, dont 300 000 sont sans domicile. La Fondation salue cependant les efforts pour trouver un toit aux personnes sans domicile grâce à la mise en place du dispositif Logement d'abord et l'amélioration de la rénovation énergétique des bâtiments. Mais elle considère comme insuffisant ce pour composer l'érosion de la création de logements sociaux et le refus d'une politique fiscale redistributive. Le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue, revient sur ce bilan critique.
Il y a eu beaucoup de ponctions sur les aides au logement pour les locataires, les APL, et là aussi ça fait beaucoup de mal. Donc c'est plutôt un bilan critique qu'on a dressé, même s'il y a des points plus positifs, hein, comme la montée en puissance de la rénovation énergétique ou le lancement du chantier du logement d'abord pour sortir les personnes dans la rue sans forcément passer tout le temps par toutes les strates de l'hébergement, mais aller davantage vers du logement pérenne. Il y a des graines qui ont été semées qui sont intéressantes, mais globalement, on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées.
Oui, vous évoquez des petits pas dans la lutte contre l'habitat indigne, notamment. Le nombre de personnes sans domicile a doublé depuis 2012. Ça, c'est un élément particulièrement important.
Oui, mais c'est une constante depuis deux ou trois quinquennats. Hein. Il y a une augmentation du nombre de personnes sans domicile. Ça veut dire qu'elles sont soit à la rue, soit en hébergement. Et la plupart sont en hébergement d'urgence. Donc c'est 300 000 personnes aujourd'hui au moins qui sont sans domicile. Et le gouvernement, malgré son plan logement d'abord, a continué à traiter ces situations d'urgence avec des solutions d'urgence, mais d'urgence qui durent des années parfois. Je pense aux familles qui sont laissées dans des hôtels, qui sont pas du tout des lieux pour vivre pendant des mois. Ça doit être des solutions d'urgence, le temps de trouver un logement social ou un logement privé adapté. Et en fait, faute d'offres de logements accessibles, des centaines de milliers de personnes passent leur vie dans des centres d'hébergement d'urgence et ça ne leur permet pas de se relancer dans la vie. Donc c'est à la fois faute d'accès à du logement, c'est aussi parce que y a des gens qui perdent le logement qu'ils avaient parce qu'il y a des mouvements migratoires qui arrivent. Donc comme ils sont mal accueillis, ils passent beaucoup de temps dans des bidonvilles, dans la rue ou dans des hébergements d'urgence. Et puis il y a des expulsions locatives. On a atteint un record d'expulsions locatives en 2019 pendant ce quinquennat. Et des ruptures familiales, une précarisation de l'emploi en bas de l'échelle, notamment pour les jeunes qui n'ont pas accès aux minima sociaux. Et donc ça fait des situations qui sont difficiles à résoudre et on les résout avec des pis-allers qui sont des hébergements d'urgence.
Les expulsions locatives qui ont été suspendues durant un certain temps pendant la crise sanitaire, est-ce que la reprise est importante depuis la fin de cette suspension ?
Oui, alors c'est vrai qu'en 2019, il y a eu un record d'expulsion, puis après, il y a eu l'événement du Covid qui, heureusement, a entraîné des mesures un peu de précaution pour repousser la trêve hivernale, mais il y a eu quand même des expulsions en 2020, il y en a eu 8000, en 2021, il y en a eu 12000, donc c'est moins que d'habitude, mais c'est quand même inquiétant, et notre crainte, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, il y aura la reprise au 1er avril, et que toutes les expulsions qui n'ont pas eu lieu en 2020-2021 se produisent maintenant, d'autant plus que, mais là il y a un point d'interrogation, est-ce qu'on verra des effets en termes d'impayés de loyer, d'expulsion locative, de la crise sociale qu'on a connue depuis 2 ans, avec quand même des pans de la population qui ont perdu des revenus, notamment je pense à ceux qui avaient des revenus non déclarés, ou des petits boulots, des emplois courts, il y a eu quand même des pertes, des dégradations de situation financière pour pas mal de gens, donc pour l'instant ça a l'air de tenir à peu près. Mais il faut voir sur le long terme, et notamment la situation économique du pays dans les années qui viennent. Est-ce que cette crise aura des répercussions? Est-ce qu'on va repartir sur une relance économique avec une baisse du chômage? Ça, on verra dans les années à venir. Mais on sait qu'une crise financière ou sanitaire a des effets sociaux parfois à retardement. Et donc, il faut rester très vigilant.
Et vous demandez la production de 150 000 logements vraiment sociaux. De quoi s'agit-il?
Oui, ce qui nous inquiète pour les années à venir, c'est que là, on a connu aussi un trou d'air dans la production de logements sociaux, à la fois parce qu'il y a eu des coupes budgétaires très fortes, et aussi parce que l'année 2020 de Covid a été un trou d'air dans la construction en général pour tout le monde. Et donc, on a commencé le quinquennat à 125 000 logements sociaux par an, on le finit à moins de 100 000, donc ça fait une baisse importante. Nous, on pense qu'il en faut 150 000 par an, déjà pour rattraper le retard accumulé, et aussi parce qu'on est face à une démographie importante, dynamique en France, pendant encore 10 ou 15 ans, avec davantage de population, davantage de ménages, notamment de petits ménages qui vont arriver dans la société. C'est des dynamiques démographiques, on n'y peut rien, mais il faut y répondre. Et donc, il faut produire du logement. Et s'il n'y a pas de logements sociaux, ce sera peut-être des logements privés, mais si c'est des logements à 5 ou 7 000 euros du mètre carré, ça va pas beaucoup aider les populations mal logées, parce que ce sera trop cher. Donc, il faut une intervention de l'État pour réguler les loyers dans le parc privé et pour produire du logement social, parce que ça, c'est efficace quand même. On sait que ça va aider vraiment des ménages en difficulté avec des bas niveaux de loyers, parce que c'est réglementé, des bas niveaux de ressources et des plafonds de ressources, et ce sont des logements de bonne qualité sur le long terme. Donc, c'est un bon investissement de la part de l'État d'investir dans du logement social. On en profite pendant des décennies.
Aujourd'hui, vous déplorez une ségrégation territoriale. Comment se traduit-elle et quelles sont les régions les plus défavorisées?
Les régions les plus inégalitaires, en fait, c'est l'Île-de-France et PACA, parce qu'il y a historiquement une forme d'égoïsme très fort entre territoires dans ces régions-là, avec des territoires extrêmement riches, je pense à Paris, les Hauts-de-Seine, et puis des territoires plus abandonnés comme la Seine-Saint-Denis. Et donc, ça fait que, historiquement, on a des endroits où il y a du logement social, où on concentre les populations les plus pauvres, et d'autres endroits beaucoup plus riches, qui ont beaucoup plus de moyens pour améliorer la vie, les services publics. Et donc, ça crée une inégalité forte. Il faut la rééquilibrer en investissant dans les territoires défavorisés, pour qu'ils aient aussi des services publics, etc. Et puis, pour construire du logement social et très social dans les zones qui en ont peu. C'est l'idée de la loi SRU, d'imposer aux maires récalcitrants de faire du logement social. Et aussi, il faut l'ajouter, d'attribuer ces logements sociaux à des ménages aussi en difficulté, parce que la tentation pour les villes un peu riches, qui sont un peu anti-pauvres aussi, c'est de faire parfois un peu de logement social, mais de l'attribuer à des ménages qui ne sont pas le plus en difficulté.
Le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue. Le Forum des mondes méditerranéens, initié par Emmanuel Macron, se tient jusqu'à ce mardi à Marseille. Lors d'une allocution en visioconférence devant le Forum, le chef de l'État français a défendu la richesse plurielle des Français venant des diasporas du Levant, du Maghreb, d'Europe du Sud. Nos diasporas, nos binationaux, sont une chance formidable pour la France et nous devons les aider à réussir, y compris de l'autre côté de la Méditerranée. Selon le propos du président français, Emmanuel Macron a annoncé un fonds de 100 millions d'euros pour les entrepreneurs vivant en France qui veulent investir au Maghreb. L'Union européenne est préoccupée par la décision du président tunisien Kais Saied de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. L'Union insiste sur l'importance de l'indépendance judiciaire. C'est ce qu'indique la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Tout en respectant la souveraineté du peuple tunisien, nous rappelons une fois de plus l'importance de la séparation des pouvoirs et l'importance judiciaire en tant qu'élément clé pour la démocratie, la stabilité et la prospérité du pays, selon les mots de Nabila Masrali, pour qui des réformes substantielles comme celle-ci, aussi importantes et nécessaires qu'elles puissent être, doivent être le résultat d'un processus inclusif et transparent. Les États-Unis aussi font part de leurs préoccupations après cette décision du président tunisien. Une justice indépendante est un élément crucial d'une démocratie efficace et transparente. Il est essentiel que le gouvernement de Tunisie tienne ses engagements à respecter l'indépendance de la justice conformément à la Constitution, a dit le porte-parole de la diplomatie américaine. Au Soudan, les manifestations contre le coup d'État du 25 octobre ont à nouveau été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre hier. Un collectif de médecins fait état de plus d'une centaine de blessés, dont une dizaine par balle. À Khartoum, les forces de l'ordre ont empêché les cortèges de se diriger vers le palais présidentiel où siège le Conseil de souveraineté dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan. L'Organisation de libération de la Palestine a nommé des proches du président Mahmoud Abbas à des postes clés. C'était à l'issue d'une réunion de deux jours du comité central de l'OLP. Hussein Al-Sher a été nommé au comité exécutif de l'organisation. Raoui Fatou a lui été élu président du Conseil national palestinien. Au Maroc, une foule recueillie a assisté hier aux funérailles du jeune Rayan, cet enfant tombé au fond d'un puits dans le nord du royaume. Les obsèques ont eu lieu à quelques kilomètres du village d'Igrane où a eu lieu l'accident. Après avoir été sorti du puits samedi soir, la dépouille du garçon de 5 ans avait été transportée accompagnée de ses parents à l'hôpital militaire de Rabat pour procéder à une autopsie. Les polémiques à répétition sur l'islam sont stériles et ne résolvent en rien les difficultés de la société française. Voilà ce qu'affirme dans une tribune au Monde un collectif de chercheurs, parmi eux l'historien et spécialiste de l'islam Olivier Anne.
Nous sommes une petite dizaine de chercheurs spécialisés dans l'histoire de l'islam, l'histoire de la théologie musulmane, la géopolitique des pays musulmans, il y a aussi un juriste. Et en fait, à travers nos études, à travers nos enquêtes de terrain, nos voyages d'études, nos travaux sur les textes, textes arabes, textes musulmans, en fait, on se rend compte de plus en plus que ce qui est dit de l'islam en permanence ne correspond pas aux réalités sociologiques, ne correspond pas aux réalités des pratiques de culte, pratiques théologiques, etc. Et que, en fait, le monde médiatique, et évidemment des hommes politiques derrière ce monde médiatique, construit une image monolithique de l'islam, dans lequel la plupart du temps les musulmans eux-mêmes ne se retrouvent pas, ou alors qui confirme des jugements a priori que certains musulmans peuvent avoir eux-mêmes de l'islam et que d'autres, des Français aussi peuvent avoir. Et donc on se retrouve en fait dans un jeu assez pervers où l'approche nuancée multiple autour de l'islam n'est plus possible, même par les musulmans eux-mêmes dans lesquels, parce qu'on les enferme en fait dans des définitions.
Et dans cette tribune, vous rappelez la permanence des échanges humains, intellectuels et commerciaux entre chrétiens et musulmans au cours de l'histoire.
Mais oui, alors bien évidemment, on n'est pas des naïfs, on connaît l'histoire. Il y a eu des affrontements, mais au-delà des affrontements, en fait, les deux rives de la Méditerranée n'ont cessé d'être en accord, n'ont cessé d'être en dialogue. Dialogue commercial, maritime, les intérêts des grandes villes portuaires italiennes sont en interaction permanente avec la Barbarie, l'actuelle Tunisie, le Levant syrien. Et on a des centaines de diplomates européens qui vont dans l'Empire ottoman pour découvrir, pour apprendre. On a des hommes qui parlent le persan, qui parlent l'arabe, et à l'inverse, on a des gens issus du monde musulman, quel qu'il soit d'ailleurs, qui vont en Europe, souvent Europe méridionale, et où les échanges se créent. Et donc, on ne peut pas dire que nos deux univers sont forcément liés à la confrontation, puisque historiquement, ça n'est pas vrai. Et puis, l'immigration a changé la donne. Et c'est là où, malheureusement, un grand nombre de nos contemporains ne comprennent plus que le monde dans lequel ils étaient nés, ce monde a changé. Et on peut tout à fait assumer une France qui a changé, sans tirer sur les communautés musulmanes qui vivent en France, et on peut trouver des manières de vivre ensemble qui passent par le respect du droit, qui passent par la prise en compte d'une certaine forme d'alterculturalité. Et tout ça est parfaitement possible. Et la France, dans son histoire, a suffisamment de ressorts pour assumer ce changement profond dans ce qu'elle est, dans ses manières de vivre et dans son droit.
Et ce que vous dites, c'est que l'islam, dans le débat politique actuel, est le cache-misère des difficultés que connaissent les Français, le chômage notamment.
Oui, en fait, c'est très simple. Quand on analyse les grands sujets de cette présidentielle, en quoi les communautés musulmanes, quelles qu'elles soient, en quoi les populations qui se rattachent à l'islam ont-elles un lien direct ou indirect avec la crise de l'hôpital, la crise de l'école, etc. Donc, là encore, il faut remettre les choses à leur juste place. On vient de faire tout un scandale sur les fameuses poupées sans visage, mais de qui parle-t-on ? On parle de combien de personnes qui sont attirées par ce type de poupées ? Notre idée dans cette tribune, c'était pas de dire que tout va bien, que la laïcité n'est pas menacée. On n'est pas des naïfs. Mais il faut remettre les choses à leur place, à leur juste place, pour éviter que ce soit toutes les communautés musulmanes qui soient pointées du doigt en raison d'une ultra-minorité qui, effectivement, peut vouloir vivre séparément et créer des systèmes d'autoségrégation. Par exemple, vous voyez, le salafisme, dans les chiffres que nous donnent les préfectures, concerne 40 000 personnes. C'est les chiffres qu'on entend souvent. Face à 5 ou 6 millions de musulmans, que pèsent ces chiffres ? Vous ne pouvez pas caractériser 5 millions de musulmans en prenant pour contre-exemple 40 000 personnes.
Olivier Hahn, il est l'auteur de L'Europe face à l'islam, histoire croisée de deux civilisations, 7e, 20e siècle, chez Talandier. Il répondait à Loïc Barrière. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne, vice-président de la région Île-de-France, soutien de la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Émission présentée par Loïc Barrière. Vous êtes bien sur Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.